si quelqu'un rentrait chez un concessionnaire automobile ou s'achetait une voiture neuve, puis il voyait une belle auto, puis il disait « c'est ça que je veux, puis il va payer le prix qui est affiché », c'est l'impression que j'ai. Je me trompe peut-être, mais l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont payé le prix de détail suggéré par le manufacturier sans se négocier les tapis dans l'auto ou les pneus d'hiver.
Et syncope!
Quel dossier improvisé?
C'est celui que vous venez d'entendre, là, c'est le directeur parlementaire du budget, donc du Parlement fédéral, là, Yves Giroux. Et là, il est en train de parler, on n'a pas acheté un dépanneur sur le coin, là, on a acheté un pipeline qu'on a payé combien?
4,4 milliards de dollars.
Il vient dire là que le gouvernement Trudeau a négocié comme des pieds.
Mais il va plus loin que ça, il dit qu'ils ont l'air de ne pas avoir négocié, parce qu'il dit en utilisant les méthodes reconnues d'évaluation, ça valait entre 3,6 et 4,6. Ils l'ont payé 4,4, mais là où c'est encore pire, c'est qu'il dit... Cette analyse-là sur la valeur s'appuie sur le fait que tout aurait normalement dû aller de l'avant, c'est-à-dire en août dernier, les travaux auraient commencé parce qu'il est question de tripler ou quadrupler la capacité du pipeline en question.
Fait que ça, c'est de l'argent qui va se rajouter, là.
C'est de l'argent qui va se rajouter. Il dit un an de retard sur le projet fait baisser la valeur de 700 millions de dollars.
Oh!
Alors moi, ce que je constate dans ce dossier-là, c'est... une tentative d'avoir l'air d'un chef. Le Trudeau a dit « Je vais vous montrer que je suis un chef. » Puis à l'époque, j'avais salué son geste.
Ouais.
J'avais dit « Oui, de temps en temps, il faut que le premier ministre mette le pied à terre. » Sauf que c'est tout de l'improvisation, c'est ça qu'on constate maintenant. Il n'avait pas réussi à franchir tous les obstacles. Ils se sont fait envoyer promener par la Cour d'appel fédérale. Ils n'ont pas été capables d'aller de l'avant avec les travaux. Ça a coûté les yeux de la tête.
C'est
ça
pas
vaut
fini.
De moins en moins cher.
Ben oui.
Puis il n'y a pas de travaux qui ont commencé là. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer.
Hey,
Je veux dire, une affaire, le Trudeau qui est en année électorale.
Ça va pas bien, hein, son affaire?
Ça va pas bien. Le sondage Main Street de ce matin, je le prends avec un grain de sel, pas à cause de la méthodologie, là, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est les déséquilibres, là, tu comprends. Les conservateurs sont à 60 % en Alberta.
Oui, oui.
Ils sont à 50 % dans les provinces des Prairies.
Fait que quand il y a juste deux points d'écart...
C'est beaucoup plus que ça. C'est Trudeau, c'est une victoire majoritaire.
Qu'il est fort au Québec, puis qu'il est numéro un en Ontario.
Puis au Québec, il est très fort.
Au-dessus de 20 points d'avance.
Oui, c'est ça. Et 42 % contre 21 pour les conservateurs.
Même 19 pour les conservateurs.
19? Ah oui,
ouais,
c'est ça.
Ils sont en dessous de 20. Fait que, tu sais, là, t'as chose de Giroux, là...
Et le NPD, le Davag Orange, il en reste plus rien.
C'est fini. Ils sont laminés, eux autres.
Laminés, complètement.
Bon, mais là, Giroux, qu'on vient d'entendre, le directeur... qui est comme une espèce de contrôleur neutre, un comptable neutre...
C'est un poste qui a été créé à l'époque de Harper.
Il dit que ça va finir par nous coûter, au total, Luc, 9,3 milliards, le sacré pipeline.
Ah oui, absolument.
9,3 milliards d'ici 2021, c'est demain matin, ça?
Non, mais 9,3 milliards pour le bâtir. Ils l'ont payé 4,4. Lis comme il faut, Bernard. 9,3 milliards, c'est les travaux qu'ils doivent entreprendre.
En plus du 4,4?
Oui, absolument.
Et
avec chaque année qui s'additionne...
On perd 700 000.
On perd 700 millions de valeurs dans l'affaire. Et là, il semble pas y avoir de solution parce que M. Trudeau a mis son pied à terre. Je l'ai salué à l'époque pour l'avoir fait. Mais là, il peut aller plus loin. Il peut invoquer une clause de la Constitution canadienne, la clause, en anglais, on l'appelle POG, le Peace, Order and Good Government, là. La paix et, en tout cas...
Et le bon gouvernement.
Et le bon gouvernement, c'est la clause que son père avait utilisée, son père, Pierre-Éliott Trudeau, pour imposer le programme énergétique national.
Et...
Pour aller jouer dans les juridictions des provinces.
Oui.
C'est une clause nucléaire. C'est une clause
mais,
qui...
Mais tant qu'il l'invoquerait, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça, là?
Ah, il pourrait construire en mettant l'armée autour, si ça y tente, s'il y a des manifestants, il pourrait absolument le faire, oui.
Il fera pas ça.
Mais il fera pas.
Il fera pas ça.
Mais, sauf que, regarde, tu vas où avec ça? Tu pars, puis là, on lance de l'argent. Puis vous allez voir que moi, ça va, c'est fini, là, les niaisages des provinces, puis tout ça. Je l'achète. Nous, du fédéral, on l'achète. Ils l'ont acheté comme du jour au lendemain. Comme tu vois, ils n'ont absolument pas négocié. Ils ont payé le super gros prix. Il n'y avait aucune garantie qu'ils allaient être capables d'aller de l'avant avec l'objectif poursuivi, qui était d'augmenter la capacité d'exportation du pétrole enclavé en Alberta. On est au point zéro, à un coût complètement hors proportion,
là,
c'est pas possible.
Là, Luc, je vais ouvrir les lignes, puis là, je vais prendre la tribune par cet angle-ci. Comment vous expliquer que Justin Trudeau est actuellement au Québec, là, selon le sondage dont a parlé Luc, là, 42 % d'appui, alors que les conservateurs sont à 19, le Bloc est à 13, et le NPD est en dessous de 9, là, et 8,9. Comment vous expliquez que malgré tout ce dont on parle, là, parce que plus souvent qu'autrement ces temps-ci, quand on parle de Justin Trudeau, ça veut dire, c'est pas positif. Qu'est-ce que tu veux? Là, tu nous as parlé de la Chine, tu nous parles du pipeline.
Politique étrangère est un désastre. Il était sûr d'avoir son siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Tout indique qu'il ne l'aura pas.
Bon.
La ballonne a dégonflé pas mal vite.
Mais là, elle dégonfle, mais objectivement, les Québécois, ils veulent encore le garder comme premier ministre. 790-9850, 98985 par texto, Drainville le commercial 985fm.ca. Comment vous expliquer que Justin Trudeau reste aussi populaire? Puis là, appelez-moi pas pour me dire, mais moi, je l'aime pas Justin Trudeau, là. Non, non, je veux savoir, là, transformez-vous un peu en analyste politique, là, si vous voulez. Puis dites-moi, pourquoi vous pensez que les Québécois l'aiment? Écoute, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au temps où les Québécois votaient pour René Lévesque à Québec, puis votaient pour Pierre Elliott, le père, à Ottawa.
Au plus fort encore pour Pierre Elliott. Tu sais, Pierre Elliott Trudeau, quand les gens disent aujourd'hui, il était détesté au Québec. La dernière fois qu'il s'est présenté devant l'électorat, il y a eu 51% des votes au Québec, là, et 74 des députés sur 75.
75.
OK, faut pas oublier ça, là.
Alors, juste
que puis en même temps, là, on est en 80, un an plus tard, il réélisait le Parti québécois de René Lévesque avec une majorité.
Accrue.
Et moi, je me souviens très bien de mon père, qui est maintenant un homme malade, mais à l'époque, mon père votait pour le PQ au provincial puis pour Pierre Elliott Trudeau au fédéral avec autant d'enthousiasme.
Et de conviction.
Ben ils les aimaient tous les deux. Ils trouvaient que l'équilibre était parfait.
Trudeau,
le grand aristocrate, René Lévesque, l'homme proche du peuple, les chicanes, on se tire la couverte puis on arrive généralement à des compromis. C'était ça que les Québécois aimaient.
Ben oui.
Mais là, à l'heure actuelle, ça se présente pas tout à fait comme ça.
Alors, on a des appels. Jean, bonjour.
Bonjour. Bonjour, ça va bien?
Ben oui. Alors, l'analyste Jean, lui, là, il dit quoi?
Bon, ben, M. Lavoie, vous faites rire parce que mon père votait exactement de la même façon.
Mais il trouvait ça normal.
Ben, il trouvait ça normal. Mais moi, je me souviens de cette ère-là. On l'appelait PET, naturellement, PET. Puis on disait que toutes les femmes québécoises vont voter pour PET parce qu'il l'aime beaucoup, PET. Mais là, il y avait un sondage ce matin, monsieur, là, que vous me dites que 41% des femmes ou quelque chose comme
ça. Non, 42% des Québécois voteraient pour Trudeau s'il y avait une élection aujourd'hui.
Oui, mais chez les femmes, là, Jean, là.
Oui.
Chez les femmes à la grandeur du pays, là, pas juste au Québec. À la grandeur du pays, Pierre Elliott, Justin a l'appui de 42% des femmes contre seulement 28% pour Scheer. C'est les femmes qui font gagner Justin.
Exactement, mais je pense que les femmes. Non, moi, j'ai confiance aux femmes, puis je pense qu'ils vont changer d'idée, j'espère.
Merci. Merci pour l'appel. Je me demandais qu'est-ce qui était pour aller lâcher là. Il revirait ça de bord à dernière minute. Marc, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, là.
Oui. Moi, je pense que le problème, dans le fond, au Québec, c'est pas un problème, mais c'est que le monde, il se fout de la politique énormément. Moi, j'en parle autour de moi un petit peu, puis les gens sont pas au courant de ce qui se passe en politique étrangère. Ils sont pas au courant qu'il y a un pipeline. Je veux dire, il y a du monde qui en parle, mais la base du monde qui vote, ils sont pas au courant, puis ils s'en foutent. Ils veulent savoir ce qui va leur arriver à eux. Le monde a de la misère à savoir ce qui se passe dans leur propre ville. Ils ont de la misère à être touchés par ce que la politique va leur amener. Puis à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est un problème majeur. Le monde sont juste pas au courant.
Pourtant,
on en parle partout.
Pourtant, ce que j'allais dire. Oui, allez-y.
En terminant, Marc.
On en parle partout, mais le monde, il entend qu'est-ce qui se passe avec Huawei en politique étrangère, il change de poste.
Ils vont
l'écouter. Tu vas avoir une minorité qui va être super, une minorité vocale importante qui va vous l'apporter. Ils vont dire oui, c'est important. Mais la majorité silencieuse va tout le temps l'emporter.
Merci.
Puis c'est là que ça se passe.
Merci, Marc.
Et les gens qui vont par Facebook pour s'informer, ben ils finissent par se créer un environnement où tous les gens qui pensent comme eux sont ceux qui leur fournissent l'information. Alors, c'est pas une information très objective.
Mais là où Marc a raison, c'est que c'est vrai que la politique étrangère, souvent, c'est pas intéressant. Les gens s'en foutent.
Ben, à l'heure actuelle, c'est le cœur de tout pour le Canada.
Ben, je le sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas, hein, tu sais?
Mais les médias, on a peut-être un peu quelque chose à voir avec ça aussi, Bernard.
Peut-être.
On n'en a pas parlé autant qu'on aurait dû.
Peut-être. Mais nous autres, on a fait notre part.
Oui, on fait notre part, mais en général.
Alors, regardez bien, là. Là, j'ai beaucoup de textos, là. Exactement. Le texto commence comme ça. Exactement. J'ai 39 ans. Je suis une femme. J'ai voté et je voterai Trudeau prochaine. On n'a pas d'option. Scheer, non. politique trop rétrograde, je le trouve insignifiant et archaïque, conservateur non plus jamais.
C'est
certain, mais je suis certain que c'est pas une blague, ça, là. C'est, elle me dit exactement. Puis il y a beaucoup de femmes, visiblement, qui pensent comme elle. C'est Alain qui nous appelle maintenant. Bonjour, Alain.
Bonjour, Bernard. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Écoutez, moi, ça va être un super politicien. Si on les mettrait sur une ligne diapason, je pourrais dire, M. Drapeau, je pense qu'il surfe encore sur son jet set, un petit peu le côté jeune gouvernement qui a ressorti du début. Puis si je le compare avec M. Scheer, il est un peu drabe lorsqu'il fait des élocutions ou lorsqu'il émet des opinions. Et juste là-dessus, moi, M. Trudeau, naturellement, pour moi, mes yeux reluent un peu plus. Donc, il attire mon attention.
C'est une très bonne analyse. Merci, Alain.
C'est sûr que ça joue.
Il dit, il reluit. Oui, c'est ça.
Il y a un certain charisme qui se dégage de lui, c'est clair.
Alors, il y en a un qui nous écrit. Il dit, la raison pour laquelle Trudeau est premier, c'est parce qu'il a légalisé le pot. Puis les Québécois sont tous gelés bien durs.
Présentement, on l'est, je vous le confirme.
OK, on s'arrête parce qu'au retour, tu vas nous présenter ton bon coup.
Oui, monsieur. Hein,
ton bon coup de la journée, dans un instant.
Drainville PM. La voix est libre.
Souvent, quand on parle de corruption, de collusion, on s'imagine un monsieur qui rentre dans notre bureau avec une enveloppe remplie d'argent. Normalement, on va même mettre la couleur brune sur l'enveloppe pour que ça soit encore plus coloré. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus insidieux. Une première rencontre, puis je vous annonce que ça ne sera pas la dernière. Il va en avoir d'autres. On veut justement s'assurer là, qu'on ne prenne pas ça comme derrière nous. Ça existe encore. Hein.
C'était Yann Lafrenière, le député caquiste de Vachon.
C'est lui ton bon... C'est mon bon coup parce que voilà une cohorte, je ne sais pas comment les appeler, un groupe de nouveaux élus qui n'ont aucune expérience parlementaire. Et la corruption, moi, j'ai été à l'intérieur de la politique, tu l'as été encore plus que moi parce que tu as même été au Conseil des ministres. La corruption, c'est pas comme on pense. C'est pas quelqu'un qui arrive puis qui te met une coupe de billes de 100$ ou 10 000 piastres dans tes poches. Ça commence... Oups, soudainement, tu as des amis que tu n'as jamais vus.
Oui, ça, c'est
Mon
ça, c'est
Dieu,
vrai, ça.
Qui sont sympathiques en plus.
Oui, du monde que tu n'as jamais vu.
Écoute, on est allé manger au restaurant, t'en comprends-tu, puis te commander des bouteilles à 200-300$.
Ah, mais ça, je n'acceptais pas ça.
Non, je comprends, mais ça peut commencer. OK, c'est
mais
pas
tu
des...
peux, mais tu peux. Mais tu peux. Il y en a qui vont l'accepter.
Oui, absolument. Et là.
Là, t'es pris. Si tu as accepté sa bouteille, faut que tu acceptes qu'il vienne prendre le café avec toi, là.
La femme du gars, elle s'est mise chambre avec ma femme, puis elle aime vraiment ça parce qu'elle l'a invité à leur club privé, je ne sais pas trop où. Ouais. Pis, et donc, je pense que le mot employé par Yann Lafrenière, c'est insidieux. C'est insidieux, la corruption en politique. Ce n'est pas quelque chose qui te saute d'en face. C'est un drôle de monde, la politique. Il y a toutes sortes de monde. John F. Kennedy disait « You find some of the best and some of the worst ». C'est ça, la politique. C'est quelques-uns des meilleurs de la société et quelques-uns des pires, ceux qui sont là pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons. Alors, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative dans un
Rappelle-nous ce qu'il a fait. Rappelle-nous ce qu'il a fait, parce qu'on a fait une entrevue avec lui plus tôt aujourd'hui.
Ils ont organisé une séance d'information pour les nouveaux députés, pour tous les députés de la CAQ, où il y avait de présent la Sûreté du Québec, l'Unité permanente anticorruption, le SCRS au fédéral. Et ils sont venus leur expliquer comment ça marche, la corruption, puis comment il faut être toujours conscient qu'on peut tomber dans le piège sans trop y avoir pensé.
Être aux aguets.
Et moi, je trouve que c'est tellement une bonne initiative, parce que j'ai vu ça à Ottawa, moi, des gens qui arrivent d'une région, ils n'ont jamais mis les pieds à Ottawa, puis ils arrivent là, puis c'est plate, puis on sait pas trop quoi faire. Puis il y a des amis qui apparaissent. Ben
on s'accroche les pieds.
Bien oui, puis c'est comme ça qu'on tombe dedans. Et moi, je trouve que c'est une tellement bonne initiative, compte tenu de ce que je connais de la politique, que François Paradis, le nouveau président de l'Assemblée nationale, devrait ajouter ça aux formations, parce que tu sais que les nouveaux députés reçoivent une formation quand ils arrivent à l'Assemblée nationale sur comment gérer ses budgets, sur ceci, sur le fonctionnement des appareils informatiques. Il devrait ajouter cette formation-là pour tous les députés, parce que les députés d'opposition aussi sont des proies, pas faciles, mais des proies tentante pour les corrupteurs, parce qu'ils peuvent faire valoir un point de vue lors de la période des questions, entre autres.
Ben oui. Les commissions parlementaires, projet de loi. Projet de loi. Moi, je te dirais, l'idée de l'inclure dans la formation, c'est une bonne idée. Puis moi, tu sais, ce serait lutte à la corruption, là, je dirais, au sens très large, ou encore, moi, je dirais ça, formation à l'intégrité, parce que tu peux rentrer là-dedans le lobbyisme.
Ben oui.
Une des choses les plus insidieuses, Luc, là, c'est le lobbyisme.
Oui, parce que les gens savent même pas souvent que la personne qui leur parle est lobbyiste. Ah. On a beau avoir créé le registre, qui va consulter le registre? Et qui est cette personne, soudainement, qui est toujours présente à mes cocktails où j'essaie de ramasser du frais?
Il y a des projets à me présenter. Oui, puis dans certains cas, tu te dis, ben c'est bon ça.
C'est parce bon ce projet-là. Puis regarde si c'est bien ficelé, parce que c'est fait par des professionnels.
Ben oui.
Écoute, je vais pousser ça pour vous autres au gouvernement.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire que les lobbyistes font un job illégal, c'est parfaitement légal. Même que parfois, ils peuvent être fort utiles parce que c'est difficile de naviguer dans la machine du gouvernement. Mais d'un autre côté, il faut que les députés qui sont élus soient conscients de cette espèce de marchandage perpétuel qui entoure la politique. Qu'ils soient conscients que le plus grand acheteur de services dans un pays, c'est le gouvernement. Ici, on a le gouvernement du Québec, puis le gouvernement municipal, puis le gouvernement fédéral. Donc, il y a de l'argent qui sort de là, et là, il y a de l'argent, c'est malheureux à dire, il y a de la magouille.
Il y a de la tentation. Ben oui. Comme on dit, là où il y a...
Excusez-moi pour mon rhume, mais voilà.
Ben oui, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, comme on dit. Oui,
alors moi, je pense que si j'étais François Paradis, qui veut faire sa marque, je prendrais cette idée-là, puis je dirais, écoute, on l'offre à tous les parlementaires. Parce que il faut qu'ils apprennent vite! Parce qu'ils peuvent tomber dans des pièges. Moi, j'ai été chef de cabinet au fédéral. Je veux dire, il y en avait des pièges autour de moi. Il y a quelques histoires que je pourrais raconter qui feraient dresser les cheveux sur la tête, là. Puis j'étais jeune, là. Puis oui, j'ai dit non à tout, mais au début, tu sais plus trop à qui t'as affaire. Puis c'est qui ce gars-là qui se dit l'ami d'un tel? Puis il a demandé à me voir, puis j'ai dit oui. Puis là, tout à coup, t'écoutes le gars, tu dis à quoi il veut en
c'est
venir,
qui? Ah, oui. Dans ce temps-là qu'il faut que tu exerces ton jugement.
Absolument.
Hein, le bon jugement, là, c'est toujours important dans la vie, mais en politique, c'est particulièrement...
Il faut que tu développes ton nez. Oh! Il faut que tu développes ton instinct de lire les individus à qui tu as affaire.
Exact.
Quand ils sont un peu trop suaves, puis trop aimables, puis trop fins, puis trop élégants...
Ils veulent t'inviter tout le temps, eux autres.
Oui.
Ah, eux autres, ils veulent t'inviter. Hein, ils veulent t'inviter à souper.
Puis un jour, t'as un enfant chez toi, t'as un enfant dans la famille qui est malade. Qui est le premier qui appelle ce gars que t'as connu lors de je sais pas. C'est vrai.
Ben oui, je sais.
Y a-tu quelque chose que je peux faire? Écoute, ma femme Francine m'en a parlé parce qu'elle a parlé à ta femme. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu te fais frémer. Et c'est très, très dangereux. Et les députés sont souvent, pas souvent, presque toujours très bien intentionnés. Mais là... Ça finit par être plate d'être un député d'opposition assis sur les banquettes arrière. Soudainement, t'as du monde qui te laisse l'impression que t'es en train de jouer dans les grosses ligues, puis t'amènes des gros projets, puis en plus, sont intéressants, puis ils te font rencontrer du monde tellement extraordinaire, puis tout ça. Et c'est comme ça que tu sais, c'est vrai.
Non, c'est vrai, certain que c'est vrai.
Écoute, t'es c'est là, puis tu sais, t'as choisi d'être candidat parce qu'il y a des gens qui t'ont recruté, puis t'as embarqué là-dedans, puis l'enthousiasme, puis la campagne, puis t'as gagné, puis tu vis là, dans l'euphorie. Puis à un moment donné, c'est la vraie vie qui commence. Là. Je rentre à l'Assemblée nationale, puis j'ai des commettants qui ont des dossiers que je veux que je traite pour eux. Puis là, c'est quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis non, parce qu'il y a des dossiers qu'un député devrait tout simplement pas toucher. Entre autres, les dossiers qui ont à voir avec les achats gouvernementaux. Faites attention à ça. Peux-tu imaginer c'est qui le plus grand acheteur de bottes au pays? L'armée. Alors imagine les places où il y a des fabricants de bottes qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir le contrat de l'armée, tu comprends? Alors là, tu vas voir le député, tu as celui de l'opposition, puis tu parles à tout le monde. Tu l'as vu, Bernard?
Ben oui, certain. Mais je trouve ça intéressant, ton exemple de fabricant de bottes.
Ben oui, c'est ça.
C'est sûr que si t'es un fabricant de bottes, puis tu veux soumissionner pour avoir le contrat de l'armée, puis mettons que tu sièges sur le comité parlementaire de la Défense nationale, puis une...
Quand tu vis dans une ville capitale comme Ottawa ou Québec, moi, c'est Ottawa que je connais, soudainement, t'arrives dans des ministères, puis là, tu te rends compte, c'est toujours les mêmes qui ont les contrats ici. Y a-t-il une raison à ça? C'est-tu parce que le prédécesseur qui était libéral va installer cela? Ou c'est pas plutôt les bureaucrates qui aiment ça faire affaire avec cette personne-là parce qu'elle est donc aimable au temps des fêtes quand c'est le temps de distribuer des cadeaux? Écoute, c'est ça aussi la machine gouvernementale, alors qu'ils leur donnent une formation puis qu'ils leur disent « ne soyez surtout pas naïfs ». Méfiez-vous de ceci, méfiez-vous de cela. Faut être méfiant. Faut avoir une bonne dose de paranoïa pour être un politicien intègre dans nos sociétés. Parce que on vit dans une société libre, les gens ont le droit de circuler, ils ont le droit d'appeler qui ils veulent, ils ont le droit de... Et faites-vous pas prendre les pieds dans ça, c'est tout.
Il y en a un qui nous écrit, là, écoute, on a des auditeurs qui sont cultivés. Quand on est corrompu, l'esprit est le complice du cœur. Mais dans l'innocence, le cœur est le complice de l'esprit.
Oh là là, hein? C'est beau ça, Bernard.
Hein? Je sais pas si c'est de
qui. En fait, c'est toi qui ont pris comme exemple, Bernard.
C'est sûr. Alors là, j'ai des gens qui... D'abord, il y en a un qui dit, là, Luc devrait boire un beau gros verre de vodka pour guérir sa grippe. OK, t'as des conseils médicaux à travers ça. Il y en a même un qui me dit, écoute, si Luc Lavoie était premier ministre, on serait sur la bonne voie.
Ah! La voie serait libre, elle serait ouverte. Le monde serait rempli d'espoir.
Oui, c'est ça.
Et Bernard deviendrait fédéraliste parce qu'il voudrait être dans mon gouvernement.
Aïe, aïe, aïe. Jamais accepter les bonbons d'un inconnu. Je ne sais pas pourquoi vous m'écrivez ça. Mais bon. C'est une image. Cher Lavoie, je suis d'accord avec toi. La lutte pour l'intégrité sera un combat perpétuel.
Il doit l'être. Hein? Il doit vraiment l'être. Hein? C'est vrai qu'il doit vraiment être perpétuel.
Merci.
OK.
Dans un instant, on va parler à un couple, de femmes, Karine et Chantal, qui ont décidé de s'occuper d'enfants que le système a laissé tomber. Des enfants là qui ont par exemple, qui ont la paralysie cérébrale. C'est une très, très belle histoire dans un instant.